Voilà, on va ouvrir la parole et on va finir le message de vendredi dernier. Donc on était dans le livre des Actes au chapitre 16 du livre des Actes. Et nous avions regardé que sous l'onction de l'Esprit, parfois, eh bien, il y a un empêchement à faire quelque chose. Et il ne faut pas le prendre comme un échec, comme une erreur de notre part, pas du tout. C'est que si nous sommes près de Dieu et sensibles à la voix de l'Esprit, eh bien nous pouvons comprendre quand le Seigneur nous dit d'aller plutôt à droite que plutôt à gauche. Et ce n'est pas une erreur de notre part, c'est parce que nous lui disons que ta volonté soit faite. Voilà, et on avait vu tout cela, et le fait même d'atterrir en prison n'était pas lié à une erreur de leur part, mais c'était vraiment lié à l'œuvre de Dieu. Voilà. Et maintenant, on va voir comment gérer les difficultés? Dans Actes 16, versets 25 à 40. Actes 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Saul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa maison de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les préteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier: Relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les préteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, c'est-à-dire ceux qui donnaient la punition: Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement, il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux préteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Alors juste une petite parenthèse en introduction. On a vu que dans le livre des Actes des Apôtres, les baptêmes dont on a connaissance, c'est quand même du rapide. Le jour de la Pentecôte, 3000. Philippe, que le Seigneur amène à rencontrer l'eunuque éthiopien. Ici, dans la nuit, ces hommes et sa famille qui croient sont baptisés. Comme pour dire que quand on a compris et que notre cœur est prêt, ça ne sert à rien d'attendre du temps, de laisser passer du temps. Parce qu'en fait, c'est le début. Alors, tant que le début soit bien posé maintenant, et après, la vie chrétienne va se dérouler. Sinon, c'est comme si on repoussait le début de quelque chose. Voilà, donc je referme la parenthèse. La gestion des difficultés, il faut avoir quand même un niveau de spiritualité un petit peu élevé, on va dire ça comme ça, pour arriver à gérer correctement les difficultés qui nous tombent dessus. Parce que, ils le disent à la fin, ils ont été battus sans jugement, jetés en prison. À tort, en plus. Et donc, c'est une difficulté qui n'est pas évidente à gérer quand on est l'objet de quelque chose qui n'est pas juste dans ce qui nous arrive. Mais Paul ne se limite pas à simplement regarder ce qui lui arrive, il essaie en permanence, et il y arrive, de regarder ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire, quand ça va bien, comme quand ça ne va pas bien. Et ça doit être un réflexe presque maintenant inné dans le sens spirituel du terme, de la nouvelle naissance, innée dans notre vie chrétienne. Que les choses aillent bien ou que les choses n'aillent pas bien du tout, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je réagisse? Quelle est l'œuvre que tu vas réaliser quand ça va bien, comme ça, quand ça ne va pas bien du tout? Et eux, ils sont en prison. Et là, nous avons des enseignements de la parole de Dieu. Nous devons nous comporter toujours sans murmure ni mauvaise pensée. C'est ce que Paul dira à Timothée, 1 Timothée 2,8. On va regarder donc comme ça quelques passages des Écritures. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, et pour la circonstance, même en prison, sans jugement, mis là de manière tout à fait injuste après avoir été battu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors je dois vous avouer que dans le même cas de figure, il faut tenir la bride à nos paroles, à nos pensées, parce que si nous ne tenons pas la bride, on va être incapable de prier. Et pourtant, c'est le moment où on en a besoin du reste. Et c'est parfois l'effet pervers des situations difficiles que l'on traverse, c'est qu'elles ont comme pour effet pervers de nous annihiler. Ça ne va pas. Effet immédiat qui n'est pas bon, qui est erroné, mais qui est quand même une réalité. Je n'ai plus envie de lire la parole. Ben, ça ne va pas. Je n'ai plus trop envie de prier. Ben, ça ne va pas. Et en plus, je n'ai plus trop quoi dire, parce que ça ne va pas. Et ça, c'est l'effet pervers d'une situation difficile. Donc, quand nous nous retrouvons dans une situation difficile, qu'on le mérite ou à tort, eh bien, il faut tenir la bride de nos pensées, de nos paroles. Et surtout, c'est plus là, que jamais qu'il faut lire la parole et prier. Et avec les douleurs qu'on peut avoir quand on a un dos dans cet état après avoir été battu, eh bien, ils chantent des cantiques. Ça a l'air de rien de chanter, mais quand vous avez ne serait-ce qu'une douleur intercostale, vous savez, cette douleur en forme d'aiguille, vous prenez une respiration, ça vous coupe tout. Vous avez du mal à chanter. Là, je pense que des douleurs intercostales, il devait en avoir quelques-unes quand même. Parce que les licteurs chez les Romains ne faisaient pas dans la dentelle. Ah oui, on nous a ordonné de les battre. Eh bien, on va les battre. Et de toute façon, ils ne vont pas à l'hôpital, après, ils vont en prison. Et s'ils meurent, ben, de toute façon, il y en a partout. Le long des chemins. Donc ils ont pris la rouste, comme on pourrait dire. Et néanmoins, ils prient et ils chantent des cantiques. Ils tiennent leur corps, ils tiennent leur être intérieur, surtout dans la ligne que le Seigneur a voulu donner. Et c'est là notre force. Et ce sera toujours là notre force. De ne pas nous laisser aller dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos émotions. Hein, j'ai pas envie ni de venir à l'église, ni de prier, ni de chanter, ni de lire la Bible, j'ai envie de rien. Hier, j'avais été invité l'après-midi à Alès et le soir à Sauve, parce que depuis qu'ils sont dans leur nouveau bâtiment, ils organisent des efforts comme cela régulièrement, en invitant les pasteurs du coin, donc hier c'était moi. Et hier soir à Sauve, j'ouvrais la parole sur un autre sujet, et je suis arrivé à parler un petit peu de cela, de ces moments où on a envie de rien, parce qu'on est passé par des moments difficiles, et c'est là qu'il ne faut pas se laisser aller. Et puis, on est passé à autre chose. Et à la fin, un monsieur est venu me voir. Il me dit, vous savez, je suis dans cet état. Parce que ma fille vient de perdre son petit de 7 mois, et on l'a enterré vendredi dernier. Et je me suis réentendu dire ce que j'ai dit. Heureusement que je ne savais pas. Et lui, il m'a dit, écoutez, je vous remercie pour ce que vous avez dit, parce que j'avais besoin de l'entendre. Mais c'est bien de le dire. Enfin, je veux dire, c'est une chose de le dire, mais quand vous êtes dedans, et que ce qui vous arrive, c'est pas un coup de marteau sur le doigt, quoique ça fait quand même mal, mais vous venez de perdre un petit bébé de 7 mois, il y a des moments où vous n'avez même pas envie qu'on vous parle. Même pas envie qu'on vienne vous dire on te soutient, parce que vous avez envie de rien, vous avez envie de vous mettre à l'écart complètement. Et c'est là où il faut ne pas se laisser piéger. Voilà. La Bible dit même que l'épreuve de la foi produit en nous des valeurs. Dans les moments difficiles, nous faisons des progrès dans la foi Et c'est peut-être même là qu'on les fait plus que dans d'autres circonstances. C'est l'apôtre Pierre qui le dira dans sa première épître au chapitre 1er. 1 Pierre 1, 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et l'épreuve va mettre en difficulté notre confiance en Dieu, mais en même temps, notre confiance à Dieu, dans ces moments-là, va s'affermir. C'est vrai que nous sommes attristés, mais nous sommes attristés pour un peu de temps, parce que Dieu mettra toujours une limite aux difficultés qui nous arrivent. Et dans ces situations qui nous arrivent, il nous dit « Ayez une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, il remarque vos bonnes œuvres. » Donc, dans les moments difficiles, ayez une bonne conduite. Paul dira dans certaines circonstances, celle qu'il est en train de vivre en fait partie, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Parce que c'est directement lié à l'œuvre du salut, ce qui lui arrive. Il y a des difficultés qui ne sont pas directement liées à l'œuvre du salut. Ça nous arrive. Mais là, c'est directement lié à l'œuvre du salut. Suivant comment Paul et Silas réagissent, le geôlier et sa famille seront sauvés, mais ça, il ne le sait pas à l'avance, ou ils ne seront pas sauvés. Parce que si Paul et Silas réagissent d'une autre manière pour éviter la prison, ils ne rencontreront jamais le chef de la prison, puisque lui ne sort pas. Alors, ils acceptent la difficulté, ils acceptent l'injustice, et ils se disent, à un moment donné, Seigneur, tu vas nous montrer le pourquoi de la chose. On va comprendre le pourquoi de la situation. Et en attendant, eh bien, ils restent tranquilles. Et réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Combien ça doit être extraordinaire après cette épreuve, mais il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir le dire. Quelle grâce, Seigneur, tu nous as faite de pouvoir amener toute une famille au salut. J'ai mal au dos. C'est Paul et Silas. Mais quelle grâce tu nous as faite d'amener toute cette famille au salut. Si nous n'avions pas été là, eh bien, ils n'auraient pas été baptisés. Et en plus, c'est extraordinaire. Baptiser toute une famille dans la nuit. Je n'ai jamais vu de baptême nocturne. Pourquoi pas? Dans la même nuit, le geôlier soigne Paul et lave les plaies, et dans la même nuit, toute la famille s'est convertie et Paul les baptise. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, quelle ambiance! Quelle ambiance entre la veille au soir et le lendemain matin au petit déjeuner, comme quoi le Seigneur ne dort ni ne sommeille. Et quand ça ne va vraiment pas du tout, remettons notre âme au fidèle Créateur. Seigneur, je me remets entre tes mains. Ça, c'est quand on en arrive au point où je ne comprends plus rien. Je ne sais plus ce qu'il faut décider, alors je ne décide rien. C'est ça le plus difficile. C'est de ne rien dire quand on ne sait pas ce qu'il faut dire, parce que sinon on va dire quelque chose de travers. Voilà. Donc si on ne sait pas quoi dire, ne disons rien. Laissons l'Esprit nous aider dans notre faiblesse. Si on ne sait pas quoi faire, ne faisons rien. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les choses aller, mais qu'on attend de voir le moment où le Seigneur va nous montrer. Voilà. Voilà l'explication de la situation. Et nous, nous devons faire ce qui est bien. Remettre notre âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà. Et Paul, on ne peut rien lui reprocher. Il est l'objet d'une injustice de A jusqu'à Z. Et l'erreur, ce serait XY, les avant-dernières étapes avant la fin de la situation, de mal réagir. Ah oui, on va s'expliquer avec les prêteurs. Ça gâcherait tout. Ah, ça ne va pas se passer comme ça. On va vous mettre en justice, on va vous mettre au tribunal. Paul, de la part d'un chrétien, on ne s'attendrait pas à ça. Alors ne le fait pas. Et même si nous aurions les raisons de le faire, toutes les raisons du monde de le faire, parfois, le piège est trop facile. Quand c'est trop facile, c'est un piège. En général, hein. Voilà. C'est la voie royale. Allez, on est avec toi, vas-y. Regarde, David. Il rentre tout seul dans la grotte. Et quand on a compris pourquoi Saül rentrait, mais regarde, c'est Dieu qui le livre entre tes mains. Et vous avez toute la pression de votre entourage qui est là pour vous dire, sors l'épée et lui, il sortira plus de la grotte. Vous avez toute la pression de ce qu'il vous a fait subir. Et là, il est là dans une position où il est plus vulnérable que jamais. L'armée est dehors. De toute façon, si vous lui réglez son compte, l'armée va tourner talon d'un seul coup pour se rallier à David. Donc, il aurait humainement parlant toutes les raisons du monde, mais il ne se laisse pas dérouter, il ne se laisse pas piéger. Et il le dira. Non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Il n'y a qu'une une notion spirituelle qui permet de dire de Saül, à ce moment-là, par rapport à toute la dérive dans laquelle il est tombé, Saül, qu'il est loin de l'Éternel parce qu'il ne l'est plus. À la limite, en faisant un mauvais jeu de mots, il est loin, d'accord, de l'Éternel. Mais pas sous l'aspect d'onction. Et David dit, juger Saül, c'est pas moi. Le jugement, c'est à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc ce n'est pas à nous. Si nous avons l'occasion de nous venger, autrement dit, nous ne nous vengeons pas. Et dans ce cas-là, on va mettre des charbons ardents sur la tête de notre ennemi. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé au coin de feu de cheminée, d'avoir un petit éclat qui vous tombe dessus. Ça doit tout s'arriver, on a laissé le pantalon, on a laissé une chemise. Et puis, imaginez des charbons ardents sur la tête. C'est intenable. Eh bien, notre réaction peut devenir intenable pour quelqu'un dans le domaine spirituel. Mais c'est à nous de gérer notre réaction. Et il faut rester concentré, attentif à l'œuvre de Dieu. Ok, la prison a tremblé de telle manière que les fondements sont ébranlés. Les chaînes tombent des pieds. Trop facile. C'est pas pour qu'on sorte comme ça. Non, non, non. C'est pas pour qu'on sorte comme ça. Parce que si c'était pour sortir comme ça, Dieu n'aurait même pas permis qu'on y rentre. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justificatif. Non, 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 il y a autre chose. Et Paul est attentif. Et nous, il nous faut toujours être attentifs à ce qui peut se passer dans un moment difficile et attendre la bonne position. Même Jésus agira de la même manière. Regardez quand il s'adresse à la Samaritaine. On le lit peut-être dans l'évangile de Jean, chapitre 4. C'est un petit mot qui fait apparaître la situation. Jean, chapitre 4. Verset 4. « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. » Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, donc midi au soleil. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On connaît le récit. Mais le récit commence à midi, en plein soleil, et lui, il est fatigué. Comment réagissez-vous quand on vient vous réveiller et que vous n'avez pas fini de dormir, hein? Voilà. Eh oui, alors... Jésus est fatigué, c'était pour rire hein, un petit peu. Jésus est fatigué, il y a des moments où on n'a pas envie. Seulement, voilà, une femme vient. Et le Seigneur, il est toujours opérationnel. Même quand il est fatigué. Même le matin au démarrage, avec ou sans petit déjeuner. Et à cause de cela, cette femme va être bénie. Le village va être béni. Les disciples viendront et lui diront, mange, non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Bon, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Comme quoi, quand vous réagissez de manière spirituelle, n'attendez pas que les autres logiquement comprennent. Donc, c'est pas peine de perdre de temps, parce qu'on est là dans une action qui est spirituelle. Alors, on va jusqu'au bout. Jésus est sur la croix. Là, c'est pas de la fatigue. Il est en train de rendre la vie. Il est en train de mourir. Et en bas, la foule parle mal. Celui qui est à droite et celui qui est à gauche parle mal. Il est en train de prendre le châtiment qui nous donne la paix, est en train de se préparer, va tomber sur lui. Il est en train de prendre la mesure de ce qui se prépare dans le ciel et qui va tomber. Et il le dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et d'un seul coup, il y en a un qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah, il fallait venir plus tôt, hein. C'est pas le moment. Peut-être que nous, on aurait réagi comme ça. Je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est extraordinaire. Jamais il est pris en défaut. Il est fatigué, il bénit. Il est en train de mourir, et il bénit. Voilà. Eh bien, nous, qu'on soit fatigués, bénissons. Que l'on soit en train de nous frapper, continuons de bénir. Pendant qu'on nous frappe, après qu'on nous ait frappés. Et quand ceux qui nous ont frappés viennent, eh bien, on leur parle comme il convient de leur parler, non pas pour leur régler leur compte, mais pour dire les choses sur la base de vérité. Vous avez vu, ils le prièrent, ils l'ont apaisé, ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Voilà. Ce n'est pas de la vengeance, c'est simplement pour dire ce que vous avez fait, c'était incorrect. Mais Dieu est en train de faire une œuvre, donc je ne vais pas me venger sur vous. Vous avez vu l'œuvre de Dieu, vous avez vu la bénédiction de Dieu, parce que ça a dû faire du fouet, que la prison soit ébranlée, que toutes les chaînes soient tombées, qu'il n'y ait pas un prisonnier qui soit sorti. Ça a dû défrayer la chronique, il y a un moment que ce n'était pas passé dans le journal de la ville. Donc ils sont devant un fait, un miracle de Dieu. Il faut que Paul et Silas restent sur la notion, la dimension que Dieu a donnée. Et Paul est en train de leur dire, ce que vous avez commis, c'est une faute, mais non commettez. Maintenant, vous vous approchez de Dieu. Et la Bible nous dira une chose, c'est que le Seigneur va toujours honorer et justifier. C'est lui qui justifie. Et le Seigneur ensuite s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Alors, la gestion des difficultés, c'est pas du tout évident. Les difficultés qui nous arrivent, particulièrement quand on ne les a pas méritées. Seulement, là aussi, le Seigneur va faire quelque chose avec nous, au travers de nous, pour ceux qui ont besoin de sa grâce. À nous de tenir bon et de tenir ferme. Et c'est peut-être là où nous serons les plus efficaces que jamais. Parce que peut-être que vous et moi, on n'est pas très à l'aise pour parler à quelqu'un qui n'a pas de problème, tout va bien. Comment aborder la conversation, lui parler du Seigneur, de l'importance du salut de son âme, du besoin du pardon de ses péchés. Des fois, ce n'est pas évident d'arriver à prendre une conversation banale et arriver à ce que d'aucuns appelleraient des questions existentielles. Et puis, vous arrive un problème. Et alors là, les conversations, mais alors, elles vont presque s'enchaîner. Mais avec tout ce qui t'arrive, comment fais-tu pour rester serein? Et c'est parti. Mais avec ce qui t'a fait, pourquoi tu ne réagis pas comme ça? Et c'est de nouveau parti. Ça fait que les difficultés, malgré leur apparence, elles vont permettre plus que jamais de faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc on ne va pas les chercher, hein, mais on va y être attentif. Et quand elles vont arriver, Seigneur, montre-nous, parce que déjà nous savons que tu es avec nous, Seigneur, montre-nous ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, ce qu'on doit dire, quand on doit le dire, etc., etc. Et là, la priorité, ce n'était pas de s'adresser au prêteur. La priorité, c'était de voir ce que Dieu voulait faire. Et maintenant que Dieu l'a fait, alors on va dire au prêteur ce que quand même ils doivent entendre. Mais pas plus. Voilà. Et Paul n'en rajoutera pas. Et ça, c'est important.